C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit un peu sortir, je dirais, du contexte de la maladie et la mettre dans un paysage. Et c'est vrai que avant d'être malade, on est vivant. Et puis l'adolescent et l'adolescence, c'est une période très importante de la vie. Parce qu'au fond, elle est le moment, enfin on le sait depuis pas très longtemps, elle est le moment où l'être humain passe de bébé, enfant, à construction d'adulte. En fait, on n'est pas adulte comme ça. On doit se construire adulte. Et le cerveau, pendant l'adolescence, se reconstruit complètement. Et ça a été démontré dans les années 90 aux États-Unis qu'il y a une forme d'extrême ultra-prolifération des cellules neuronales et des connexions dans le cerveau. Et vers 15-16 ans, il y a une forme d'élagage. On n'utilise plus que ce qu'on doit utiliser. D'ailleurs, le terme utilisé, c'est use it or lose it, c'est-à-dire on garde ce qu'on a à garder, le reste on jette.
Ça veut dire que c'est à ce moment-là que le cerveau et même le corps humain seraient un peu le plus vulnérables parce qu'il est en reconstruction. Et c'est à ce moment-là qu'une maladie comme la schizophrénie peut entrer le plus facilement dans le corps ou dans le cerveau.
On ne dira pas qu'elle nous entre comme quelqu'un qui vient nous posséder, mais la schizophrénie est une maladie qui se développe dans l'adolescence, entre 15 et 25 ans. En règle générale, on ne devient pas schizophrène plus tard. Et c'est vrai qu'au fond, on a d'abord. Chaque maladie n'a pas une cause, hein. On n'a pas on-off. Il faut plein de petits paramètres qui vont faire qu'à un moment donné, ben, le mécanisme se met en action. Mais c'est vrai que pendant l'adolescence, comme le cerveau se construit, il semble que parfois, ben, il y a des petites originalités qui vont faire qu'on va exprimer sa façon de vivre de cette façon. Et souvent, en fait, maintenant, ce qu'on observe, mais en restant d'un point de vue purement biologique, c'est que certaines fonctionnalités de neurotransmetteurs sont altérées. Et entre autres, on a pensé beaucoup au système de la dopamine. Donc souvent, ça a été l'hypothèse de travail, c'était l'hypothèse de la schizophrénie par la problématique de la dopamine. Et c'est vrai qu'on a maintenant mesuré qu'il n'y a pas que la dopamine. Il y a d'autres neurotransmetteurs qui pourraient être altérés dans leur fonctionnalité. Et entre autres, depuis les années 90, on commence à le découvrir, un neurotransmetteur cousin du cannabis, qui s'appelle un endocannabinoïde, et qui agit sur des récepteurs à cannabis. Donc aujourd'hui, on a vu, comme par exemple pour l'opium, hein, la morphine, qui agit sur des récepteurs à morphine, on sait aujourd'hui que notre cerveau a des récepteurs à cannabis et qu'il sécrète un neurotransmetteur qui va agir sur ces récepteurs. Et ils sont modulés chez les schizophrènes.
Là, vous parlez de cannabis. Là, on touche un terrain qui est un petit peu sensible et qui est difficile parfois à comprendre parce que tout jeune qui va fumer un pétard ne sera pas forcément schizophrène.
Non, 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 ça c'est clair qu'il y a plein de gens d'ailleurs. Bon, même si on veut considérer que le cannabis est une drogue douce, il faut savoir que les drogues douces n'existent qu'en dans la tête des gens qui veulent y croire. Ça n'existe pas, les drogues douces, puisque
C'est une drogue.
c'est une drogue. L'alcool est une drogue, le cannabis est une drogue, les benzodiazépines sont une drogue. Après, c'est l'usage qu'on en fait qui va changer la chose. Mais il n'existe pas de drogue douce. Ça, c'est une notion de toxicologie de base. Maintenant, ce qui se passe, c'est que toutes les drogues agissent sur le système de la dopamine. Le schizophrène semble avoir un problème de sécrétion de cette dopamine. Comme le cannabis surstimule la dopamine, bah, c'est clair que ça peut être ressenti comme un médicament pour le schizophrène. Maintenant, juste pour revenir avant à une chose, on a, semble-t-il, des prédispositions génétiques. Et ce qui se passe, c'est que si on commence à goûter au cannabis, on ne va pas savoir qui on est au fond. On ne sait pas quel terrain on a, comment on va pousser les effets de ce cannabis dans notre cerveau. Alors, il y a des gens chez qui ça aura juste aucun effet. Et puis qui goûteront une fois cette substance en mesurant que c'est pas dans les produits et dans les paradis artificiels qu'on trouve les solutions à nos problèmes. Puis il y en a d'autres qui vont s'y attacher et développer ben, soit des addictions à la substance, soit alors, si leur terrain est favorable, que plein de paramètres, l'environnement, la génétique, enfin, il y a plein de paramètres qui peuvent jouer un rôle, alors vont peut-être favoriser l'expression de la maladie, mais sans pour autant qu'elle soit obligatoirement exprimée. Donc ça veut dire au fond, cannabis n'égale pas je vais faire une schizophrénie, mais cannabis égale chez des patients à risque la possibilité d'augmenter l'apparition de la maladie.
Alors ça veut dire que ça peut être un déclencheur. On a souvent parlé de déclenchement dû à des chocs, hein, par exemple le choc d'un échec dans un apprentissage, par exemple, ou un échec amoureux. Le cannabis peut être un déclencheur au même titre?
Totalement, totalement. Aujourd'hui, je pense que, et disons, à la teneur de la lecture des articles de la scientifique, donc des publications aujourd'hui qui essayent de comprendre, de poser la question, on essaie de comprendre comment une maladie comme ça peut apparaître, hein, elle touche quand même 1% de la population dans le monde. Hein. Et en fait, l'idée, c'est de penser que peut-être, effectivement, un terrain génétique fragile, ce qu'il faut savoir, mais ça c'est assez compliqué, disons, à résumer, mais au fond, la construction de notre apprentissage dans le cerveau implique des connexions, des circuits, comme si vous connectez différents ordinateurs entre eux. Et puis dans notre cerveau, on n'a pas de Wi-Fi, donc on doit connecter les ordinateurs avec des câblages, donc on connecte nos neurones avec des câblages. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces câblages et cette construction de câblages se fait par l'intermédiaire de la dopamine, entre autres, mais aussi bien d'autres neurotransmetteurs et du système endocannabinoïde. Donc ça veut dire que quand on surstimule la dopamine, on va créer des circuits. Maintenant, on peut créer des mauvais circuits. Et ces mauvais circuits vont pouvoir favoriser justement des comportements qui vont être après, disons, observés par ce symptôme qu'est la schizo.